Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ?
Au programme, la loi audiovisuelle mal embarquée pour voir le jour, la réussite du New York Times, la chaîne Euronews qui se fait une place et Éric Rochant qui défend la fin du bureau des légendes. Mais rassurez-vous, ce journal est garanti sans spoiler.
Et on commence comme chaque jour évidemment avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
Ils ont regardé The Resident, plus de 4 200 000 téléspectateurs étaient devant les deux nouveaux épisodes de la série de TF1. M6 est deuxième, Top Chef a été suivi par plus de 3 700 000 téléspectateurs. Enfin, France 2 prend la dernière place du podium, sa série Alex Hugo avec Samuel Le Bihan a été regardée par près de 3 200 000 Français. Et toujours, à propos des audiences, France 3 proposait un cours de dictée hier à 14h. Un retour à l'école qui a bien marché, plus d'1 700 000 téléspectateurs ont suivi la dictée d'Edouard Baird sur un texte de Joseph Kessel. C'est quasiment 15% de part d'audience, un score supérieur à ce que fait d'ordinaire France 3 à cette heure-ci, et c'est même mieux que le film Madame Bovary diffusé en même temps sur France 2.
Culture Média. Cyril, on débute maintenant ce journal des médias par les annonces hier d'Emmanuel Macron. Et si nous détaillons le plan du gouvernement dans le journal de la culture, Cyril, il y a une chose également à retenir côté médias.
Il y avait un grand absent hier, aussi bien dans l'intervention du chef de l'État que dans celle de la, que lors de la prise de parole du ministre de la Culture, le projet de réforme de l'audiovisuel. Où est-il ? S'il a été évoqué, c'est pour dire qu'une des parties du texte allait devoir être adoptée plus vite et en force, selon les propres mots d'Emmanuel Macron. Pour le reste, l'horizon semble bel et bien incertain. Difficile en effet d'imaginer que le gouvernement puisse débattre et voter un texte sur l'audiovisuel alors que le pays traverse une crise sans précédent. Conséquence, tout le projet de regroupement de l'audiovisuel public sous forme de holding pourrait être enterré si la loi est repoussée sine die. Ceux qui craignaient un retour de l'ORTF peuvent donc souffler.
On dit et répète que la situation de la presse est très compliquée, mais il y en a un organe de presse pour qui les signaux sont au vert. Il est américain, il est à New York et il s'appelle...
Et il s'appelle le New York Times et il compte désormais plus de 6 millions d'abonnés. Un cap franchi grâce aux incroyables performances du quotidien sur le numérique. Le New York Times a recruté 468 000 nouveaux abonnés sur le digital rien qu'au premier trimestre. Un record dans la longue histoire du journal. Si la crise sanitaire a accentué les demandes d'information des Américains, comme de tous les citoyens de la planète d'ailleurs, aux États-Unis, la présidentielle va à son tour être l'occasion de faire venir de nouveaux lecteurs. Nous avons contacté Adam Nociter, le correspondant du New York Times à Paris, et nous lui avons demandé comment il anticipait cette séquence présidentielle et s'il pensait que la stigmatisation des médias par le camp Trump comme en 2016 pouvait être nocive pour son journal.
C'est une demi-blague que chaque fois que Trump nous stigmatise comme le New York Times défaillante, on ajoute 10 000 nouveaux lecteurs. Donc toute cette campagne de stigmatisation de notre journal et des autres médias de la part de Trump et des républicains plus généralement a l'effet opposé de ce qu'ils recherchent.
Donald Trump ne fait pas peur aux correspondants du New York Times à Paris, mais on se souvient qu'en 2016, les médias américains n'avaient pas du tout mesuré la percée de Trump dans l'électorat et ils avaient tous promis de se reconnecter au peuple américain. J'ai demandé à Adam Nociter s'il pensait que ce travail avait été fait.
Reconnecter, je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a une grande partie d'Américains qui nous sont fermés à jamais, que nous atteindrons jamais. Pour ma part, je dis tant pis pour eux. Mais je crois en même temps qu'il y a une grande partie des Américains qui n'ont pas jusqu'à présent senti le besoin d'une information factuelle et fouillée et à peu près exacte. Et maintenant, dans cette période où les faits eux-mêmes, la vérité est mise en question chaque jour par un président menteur, oui, ils éprouvent le besoin de nous lire, de nous acheter, de nous soutenir. Un président menteur et un public américain qui reconnaît que dans une démocratie, les faits, la vérité sont des éléments essentiels.
Pour finir sur le New York Times, si le nombre d'abonnés continue de progresser de mois en mois, le quotidien new-yorkais n'échappe pas à la crise actuelle et donc à la chute de ses revenus publicitaires. 15% de moins au cours des trois premiers mois de l'année, ça va s'empirer. Son patron estime que ce recul sera de 55% pour le deuxième trimestre.
Et puis Cyril, retour en France, vous nous parlez ce matin d'une chaîne info pas neuve, moins connue toutefois que celle de la TNT.
Cette chaîne, c'est Euronews, la chaîne d'infos en continu consacrée à l'Europe, que vous ne pouvez pas voir sur la TNT, mais qui est accessible sur toutes les box de vos opérateurs. Et si les Français connaissent mal Euronews, la chaîne elle est pourtant installée à Lyon. Ces dernières semaines, elle s'est notamment distinguée par de très belles performances d'audience sur Internet. Selon une étude d'un cabinet britannique, Euronews réussit à se classer derrière la très puissante Sky News en Angleterre sur le critère des vidéos en direct diffusées sur YouTube. En France, Euronews trouve aussi son public. Au nombre de vidéos vues sur YouTube, toujours, la chaîne Euronews devance LCI, CNews et même Arte. Mais toute la difficulté pour cette chaîne, pour Euronews, c'est de se distinguer dans une offre d'infos déjà pléthorique. Yuva Bouzidi, le responsable des produits digitaux d'Euronews, nous explique comment sa chaîne peut se différencier.
Du coup, cette appétence du public britannique pour Euronews est une donnée très intéressante pour nous. Elle valide notre stratégie qui consiste à conforter notre place de seul média télé véritablement européen. On dirait que le Brexit n'a pas fait disparaître l'envie des Britanniques d'en savoir plus sur l'Europe et sur leurs voisins européens. La période difficile que nous traversons actuellement le montre bien d'ailleurs. Nous avons constaté ces derniers temps que les articles les plus consultés sur notre site web, par exemple, par les utilisateurs britanniques, portaient sur l'Espagne, la France et l'Italie. Euronews, du coup, remplit aujourd'hui plus que jamais sa mission d'intérêt général européenne. Nous avons une offre différente de celle des chaînes d'information nationale. Il n'y a pas d'autres médias aujourd'hui en France qui non seulement parlent autant d'Europe, mais qui a aussi une réelle expertise sur ce qui se passe dans les autres pays européens.
Ses ambitions commencent à payer. Au premier trimestre de l'année, Euronews a doublé son nombre de vidéos vues sur YouTube.
La cinquième saison du Bureau des légendes s'est achevée lundi soir et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas que des heureux.
Ah ça non, les haters se déchaînent depuis lundi soir et j'en connais d'ailleurs dans l'équipe de Culture Média. La raison, les deux derniers épisodes réalisés par Jacques Audiard, à qui le créateur du Bureau des légendes, Éric Rochant, avait décidé de laisser les commandes pour achever son œuvre. Un choix qu'ont regretté certains fans de la série, avec les excès qu'on peut parfois connaître sur Twitter. Éric Rochant a décidé de leur répondre dans deux messages publiés sur Twitter, mais également dans une vidéo où il répond à une série de questions sur cette ultime saison. Je vous propose d'écouter ce que pense Éric Rochant de la fin de sa série sous la houlette de Jacques Audiard. Un extrait garanti sans spoiler.
Oui, il m'a énormément plu, à plus d'un titre. J'ai confié à Jacques Audiard les deux derniers épisodes parce que je pense que voilà, il fallait qu'il y ait un épilogue à ces cinq saisons. Un épilogue qui pouvait être écrit et réalisé, pensé, donc imaginé par un grand cinéaste. Et qui pouvait donc du coup remodeler un peu l'esprit de la série pour voilà, y mettre ses propres obsessions et ses propres interrogations. Donc confier à Jacques Audiard à la fin, c'était vraiment lui donner les clés de la maison. Sa mise en scène est absolument magnifique et je crois, et vraiment je trouve que les dernières scènes, la façon d'abord dont il a éclairé les personnages et les histoires à sa manière, hein, il a éteint mes lumières et il a allumé les siennes. Moi je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une proposition artistique forte, puissante. Et puis extrêmement émouvante. Enfin, moi, j'étais extrêmement ému par la scène du banquet final, qui est une sorte de, en même temps, de bilan de tout ce qui s'est passé et en même temps d'une très très grande émotion.
Voilà pour l'avis d'Éric Rochant. Et si son créateur a décidé d'en rester là, le Bureau des légendes devrait bien continuer d'exister. Éric Rochant cherche actuellement son successeur, qui ne sera pas Jacques Audiard. Avant même de savoir que certains n'aimeraient pas son final, il avait fait savoir qu'il ne voulait pas de ce job. Et Philippe, comme vous recevez Mathieu Amalric, qui joue l'excellent Gigia dans le Bureau des légendes, je compte sur vous pour lui demander ce qu'il a pensé de cette fin et du mécontentement de certains.
En vous écoutant, je me dis, tiens, je vais poser la question à Amalric. Et ben voilà, les grands esprits se rencontrent. Merci beaucoup, Cyril. La carrière. Alors, on se retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média continue évidemment dans un instant notre info média du jour avec un retour en kiosque, celui du magazine Voici qui avait cessé de paraître en avril pour cause de coronavirus.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
C'est un grand retour. retour aujourd'hui en kiosque, celui du magazine Voici. On va enfin savoir qui couche avec qui, ou plutôt qui ne couche pas avec qui à cause du confinement. Avec la crise du coronavirus, l'hebdomadaire a choisi de ne pas paraître pendant le mois d'avril. Ouvrez les guillemets, c'est donc avec énormément de joie que nous avons repris le chemin du bureau, écrit Marion Lombert, la rédactrice en chef de Voici, dans les colonnes du magazine. Et elle ajoute, enfin, de nos cuisines, salons, chambres, puisque toute la rédac est encore en télétravail avec chiens, chats et enfants dans les pattes. Bonjour Marion Lombert, pardon.
Bonjour.
Je pensais au A de pattes, vous avez qui dans les pattes?
Moi j'ai deux enfants, un chat.
D'accord, comment il s'appelle le chat?
Elle s'appelle Aiko,
voilà.
C'est une femelle.
Salut Aiko. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le numéro qui sort aujourd'hui? D'abord, c'est quoi la une?
C'est Marion Cotillard et Guillaume Canet qui sont au Cap Ferret en train de se baigner.
Non, alors je vais vous dire, vous êtes meilleurs que nous, en tout cas que moi, parce qu'avant-hier, on avait Guillaume Canet dans l'émission, mais il n'a rien voulu dire, écoutez. Où est-ce que vous êtes, Guillaume Canet? Vous êtes au Cap Ferret ou est-ce que vous êtes confiné?
Je suis où je veux, voilà.
Comment vous faites pour savoir ce que nous, on n'arrive pas à obtenir alors qu'on connaît les gens?
Alors, on a des informateurs, en fait, dans les entourages des people qui nous donnent des tuyaux. Et on a évidemment des agences de paparazzi avec qui on travaille et qui aussi sont assez bien renseignées.
Voilà, et on sait qu'il y a beaucoup de monde en ce moment au Cap Ferret et des têtes connues. Quoi d'autre en une?
On a la première sortie de Louane avec son bébé. Elle a accouché d'une petite fille qui s'appelle Isabelle. Et on a également des séries télé et évidemment de la beauté, puisqu'on est en pleine période cocooning à la maison. Donc nos lectrices sont assez friandes de ce genre de sujet. Ouais. Voilà.
Attendez, il y a une info dans l'info. C'est le retour du prénom Isabelle.
Alors, Isabelle, c'est le prénom de la maman de Louane. C'est comme elle a perdu sa maman, c'est son.
D'accord.
Voilà, c'est
d'accord.
Son hommage.
C'est pas encore le retour de la maman, du retour d'Isabelle et des retours des Nathalie et des Véro. Y a quoi d'autre dans le journal au sommaire?
Au sommaire, il y a, comme toutes les semaines, du people, des gossips. On a pas mal de people en confinement, donc il y a beaucoup de photos qui sont quand même issues d'Instagram. On a également rajouté des pages de séries télé, puisque voilà, c'est vraiment ce qui cartonne en ce moment. Et on a évidemment toute la partie mode, beauté, bien-être, cuisine. On a réduit certaines pages parce que certains sujets n'existent plus, comme évidemment cinéma et spectacle.
Ouais.
Et on a rajouté par contre des jeux et des psychotests.
Vos images, ce sont des paparazzis, ce qu'on appelle les paparazzis, c'est des photos faites par les paparazzis, oui. Du contenu chaud. Est-ce que les stars commencent à se déconfiner? Ils sont comme nous, ils ont envie de sortir. Et est-ce que vous prédisez une hausse des paparazzis dès le 11 mai, dès lundi?
Alors oui, ils commencent à se déconfiner, ils sont comme tout le monde, ils en ont marre. Donc autant le confinement était très suivi au début par les people, autant là, on le voit, ça se relâche un
c'est
peu.
C'est pas vrai.
Si, c'est normal.
Attendez,
après,
attendez.
C'est des gens comme nous. Hein.
Attendez, c'est des gens comme vous. Oui, mais non, sauf que nous, on n'a pas, en tout cas moi, j'ai pas des paparazzi en bas de chez moi. Donc est-ce que vous allez faire la dénonciation des people qui sortent alors qu'ils devraient être confinés?
Non, alors ça, on fait pas. Ce qu'on fait, par contre, c'est que si on a des photos, on les publie, ce qui est le cas pour Guillaume Canet, Marion Cotillard ou pour Louane. Après, ils ne font rien qui est interdit, hein, puisque c'est pour aller chez le médecin, c'est dans leur... c'est en bas de chez eux. Pour Guillaume Canet, Marion Cotillard, c'est l'accès à la mer de leur propriété. Donc, il y a des people qui ont des chiens qui les promènent, il y en a qui vont faire du jogging. C'est un peu comme tout le monde. Ils saisissent la moindre chance de pouvoir aussi un peu s'aérer.
Alors,
et on en profite.
Oui. On va parler médias, c'est votre premier numéro depuis fin mars, après plusieurs semaines d'absence. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas paraître en avril? C'était faute de contenu, parce que les stars étaient confinées entre quatre murs, ou parfois entre 400 murs, quand ils ont une très très grande propriété, ou faute de kiosques ouverts?
Les deux. Les deux, en fait, il y a eu une vraie baisse de trafic en kiosque. Hein. Les gens sortaient moins, les kiosques ont fermé. Mmh. On a eu effectivement tous les people qui sont confinés, donc beaucoup moins de photos et beaucoup moins d'infos, ce qui est quand même pour nous un peu le nerf de la guerre. Et il y a eu aussi un troisième dommage collatéral de l'épidémie, qui est la baisse de revenus publicitaires, hein, puisque beaucoup de campagnes ont été annulées. Mmh. Et pour un titre comme Voici, dont en plus l'économie repose beaucoup sur la vente en kiosque et non l'abonnement comme d'autres titres. Voilà, on a pris cette décision de raison de ne pas mettre l'économie du titre en péril.
C'était plus la pub que les ventes en kiosque. Vos chiffres de vente qui sont en gros de... La moyenne c'est 230 000, 232 000 exemplaires du magazine vendus oui. chaque semaine. Ça avait baissé en mars de manière sensible.
Ça avait pas baissé tant que ça en mars, puisqu'on a, en fait, il y a eu un effet d'annonce avant le confinement où les gens ont acheté. Mais par contre, on l'a vu sur le premier numéro d'avril, donc notre dernier. Oui, là, ça baissait.
Alors, vos concurrents n'ont pas tous fait le même choix. Paris Match, non. Gala et surtout Public, qui vous ressemblent davantage, ont continué à paraître, finalement avec le recul, on peut le dire. Est-ce que vous avez regretté ou pas de ne pas avoir fait comme eux, de ne pas avoir continué à publier?
Non, alors déjà parce qu'en fait chacun a sa stratégie, en plus ce sont des stratégies de groupes médias donc qui ne dépendent pas que des rédactions, c'est une stratégie à long terme pour nous économiquement, pour le magazine, et de pouvoir aussi assurer à nos lectrices notre contrat de lecture, c'est-à-dire un magazine qui est surtout fait de paparazza, de sujets français, avec une qualité voilà d'écriture, et tout ça coûte effectivement cher, donc on a pris cette décision-là et on la regrette pas. Après, les concurrents font ce qu'ils veulent, chacun sa stratégie.
Voilà, et puis Paris Match fait partie d'un très très bon groupe, je dis pas ça parce qu'ils sont chez Lagardère comme Europe 1 et le JDD. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser, puis on sait toujours pas qui ne couche pas avec qui, Marion Lombert.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Si vous étiez en manque de potins et de gossip, bonne nouvelle, Voici, retour, revient en kiosque à partir d'aujourd'hui. Nous sommes avec Marion Lombert, la rédactrice en chef du magazine de Voici. On peut dire qu'on revient de loin dans un article du Monde consacré à la presse People, c'était du 24 avril. Mimi Marchand, la fameuse patronne de l'agence Best Image, la reine des paparazzi et amie du couple Macron, a fait part de son dépit, je la cite. Une fois qu'on a fait un sujet sur les people qui pointent leur nez à la fenêtre avec l'écriteau « Restez chez vous », un sujet sur les people qui font du jogging et des photos devant RTL de Stéphane Plaza et Rael Dombal qui arrivent pour les grosses têtes, qu'est-ce qui reste? Je vous le demande, je vois déjà ça vous fait rigoler. Ah, dit-elle, je viens de recevoir une série prise à Los Angeles, il y a du Chris Martin à VTT et du M. Pokora qui se balade avec son fils. Ouais, bon, ça fait la farce en attendant. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que l'actu people était devenu aussi pauvre que cela?
Oui, au début du confinement, clairement pour Voici, donc nous c'est surtout de la paparazzade française qu'on met en couverture, ça a été effectivement quasiment un stop du jour au lendemain de séries et d'infos aussi, hein, puisque les people confinés chez eux, ça devient tout de suite un peu moins croustillant.
Ah oui.
Mais voilà, depuis quelques jours, je dirais une dizaine de jours, les people se déconfinent un peu, sortent un peu plus, comme tous les Français, ils en ont marre, et là on commence effectivement à retrouver des séries comme on a pu mettre dans le magazine cette semaine, que ce soit Marion Cotillard ou Louane, on a de nouveau des stars françaises.
Et est-ce qu'il y en a des stars françaises qui ne sont pas en France et qui ne sont pas confinées? On a eu, nous, on était en ligne, on a fait une émission avec Émilie Simon qui est aux États-Unis et dans l'endroit où elle se trouvait, si je me souviens bien, elle était libre, et une autre aussi dont le nom m'échappe à l'instant.
Alors, il y en a quelques-uns, mais qui sont pas forcément des people qui nous vont nous intéresser.
Ah oui. Des people, c'est des people pas connus en fait.
Oui, exactement. C'est nous sur les gros people, ils sont plutôt en France ou effectivement à Los Angeles. Je pense à une Laetitia Hallyday. Ouais. Mais le confinement arrive aussi là-bas et au-delà des gens qui ne sortent pas, là, on a aussi beaucoup de paparazzi de people avec des masques, ce qui forcément n'est pas très drôle.
Et puis surtout, on peut faire passer sa sœur à la place et ça marche.
Exactement.
Quand même. Beaucoup moins joyeux, est-ce que vous avez dû mettre des photographes au chômage? Est-ce que vous avez des photographes d'abord, des photographes staff?
Non.
Ou est-ce que vous payez la photo? C'est ça?
On achète des séries photos ou des photos à des agences photos. Donc non, on n'a pas mis de photographes au chômage.
Vous avez vu le message de Jean Dujardin sur son compte Insta le 27 mars dernier?
Oui.
Je vais le dire, il prend Voici à partie, même pendant l'épreuve, écrit Jean Dujardin, même pendant l'épreuve que nous traversons, la presse people ne change pas ses habitudes. Désinformation, mauvaise foi et totale irresponsabilité. Publiant une des photos réalisées il y a 15 jours avant le confinement pour laisser croire que ma famille ne respecterait pas les ordres du gouvernement est totalement faux et inconséquent. Que lui avez-vous répondu?
Alors, on lui a pas répondu directement. En fait, il suffisait de lire l'article qu'il n'a donc, j'imagine, pas lu, où on donnait effectivement la date en expliquant que c'était avant le confinement. Donc, à aucun moment on a essayé d'insinuer qu'il avait rompu le confinement. Pas du tout. On a juste expliqué que c'était fait avant. Et c'est normal, quand on reçoit des photos, on ne les publie pas évidemment dans la journée. On les publie dans le numéro d'après ou parfois d'encore après. Donc, il y a un décalage de temps et on le met.
D'accord. Plus de Voici donc dans les kiosques en avril, mais un site internet, voici.fr toujours actif. Les audiences sur le web, il y a eu un effet confinement ?
Oui. Sur le mois de mars, on a des audiences qui sont records. Là, on est à 12 millions de visiteurs uniques. On a fait près de 90 millions de vidéos vues. Donc, c'est vraiment sur le mois de mars très important. Après, on avait déjà un trend qui était élevé parce que les sites People marchent très bien de toute façon. Donc, on a eu une hausse d'à peu près 10%. Mais voilà, c'est de la matière de toute façon qui cartonne. Oui.
Le trend, je précise, c'est la tendance. Le contenu, évidemment, a changé avec le confinement. Quel sujet vous avez davantage traité ? Ce qui m'a amusé, c'est les cheveux.
Oui. Alors les cheveux, c'est un gros carton.
Ouais.
Exactement. On a forcément été obligé de changer aussi bien par la matière, mais par les préoccupations de nos internautes. On a pas mal fait de sujets sur les politiques parce que ça les intéresse. Mmh. On a également pas mal traité des séries télé et des sujets télé en général parce que les gens regardent beaucoup la télé en confinement. On a fait pas mal d'interviews de candidats de Koh-Lanta. On a pas mal traité l'émission de Cyril Lignac qui cartonne sur M6.
Ouais.
Et effectivement, on a développé tout le contenu bien-être, beauté, cocooning. Parce que ça, voilà, tout ce qui est do it yourself, apprendre à faire des produits, des masques, des choses comme ça à la maison, ça, nos internautes adorent.
Et vous avez remis des photographes en bas de chez Cyril Lignac parce qu'il n'en peut plus. À chaque fois, il le dit, dans chaque interview, il dit qu'il n'en peut plus d'avoir des gens en bas de chez lui.
Alors, pas à ma connaissance, mais après, les paparazzis font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ne sont pas tous pilotés par Voici.
Très belle réponse diplomatique. Merci Marion Lambert et tant pis pour Cyril Lignac qu'on salue. Rédac chef du magazine Voici, de retour dans les kiosques après un mois d'absence. Merci à vous. Culture Média continue.
Merci.
Évidemment, après le rappel des titres de 10h, nous serons avec Jacques Legros, l'éternel joker qui remplace actuellement Jean-Pierre Pernaut à la présentation du 13h de TF1. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manerino. Puis on va recevoir le comédien Mathieu Amalric, brillant dans la nouvelle série d'Arte, L'Agent Immobilier. Nos indispensables, l'humoriste Blanche Gardin, passée au crible par Louise Bernard, à ne pas rater. Et puis du rock indie avec Angèle Châtelier pour le groupe américain The War on Drugs, la guerre contre la drogue, tout un programme.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Nous serons avec Jacques Legros, le joker de Jean-Pierre Pernaut, au 13h de TF1. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Puis le comédien Mathieu Amalric qui porte la nouvelle série d'Arte, L'Agent Immobilier. Nos indispensables, de l'humour noir et du rock noir également. Juste après ça.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Jacques Legros.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, même si parfois vous refusez d'être estampillé comme tel. Vous êtes le joker, je l'ai dit, de Jean-Pierre Pernaut et présentateur actuel du 13h de TF1 depuis le confinement, depuis la semaine du 16 mars. Oui. Je vais expliquer pour ceux qui ne regardent pas la une. En accord avec Thierry Tulier, le patron de la rédaction, Jean-Pierre Pernaut a décidé de se protéger et de ne prendre aucun risque en restant chez lui, même s'il participe au 13h pour la partie magazine. Alors d'abord, question calendrier. Jacques Legros, est-ce que votre intérim va prendre fin le 11 mai avec le déconfinement ?
Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, le 11 mai, c'est sûr que non.
Ouais.
On va retrouver Jean-Pierre à partir du 11 mai, à partir de lundi, dans une rubrique qu'il fera à partir de chez lui, comme il l'a fait ces dernières semaines. Oui, un peu différente, cette rubrique, mais elle existera, on va le retrouver. Mmh. Mais par prudence, il était plus raisonnable qu'il continue. Vous savez, le 11 mai, on parle de déconfinement, mais ça va être un tout petit déconfinement.
On le sait.
Il ne faut pas rêver. Hein. Donc, c'est pas la peine de faire prendre des risques à Jean-Pierre pour gagner une semaine ou deux. C'est ridicule.
Comme l'a dit un médecin, on ne va pas passer du off au on. Alors, juste un mot, comment vous imaginez, comment vous voyez l'avenir ? Comme vous êtes déjà le joker de l'été, vous pensez tenir jusqu'à quand ? Est-ce que vous allez tenir jusqu'en septembre ?
Ah bah, là, c'est pas, il n'en est pas question pour le moment. Hein. On va ajouter une ou quelques semaines à cette période de 8 semaines que je viens de passer, que je terminerai demain au 13h. Mm-hmm. Mais on verra. Je veux dire, on va marcher, on va avancer en marchant. et puis on prendra. Vous savez, le joker, c'est déjà être disponible quand c'est nécessaire.
Ouais.
Donc je suis disponible aujourd'hui, je l'ai été, je le serai le temps nécessaire. Mais je n'ai aucune date et je pense que personne n'a de date pour le moment.
Ouais.
On va déjà voir comment se passe le 11 mai, cette semaine un peu particulière que sera le déconfinement, et puis après on avisera.
D'accord. Pour qui ne connaît pas la nouvelle architecture du Trésor de TF1, racontez comment vous partagez les rôles entre vous et Jean-Pierre Pernaut. Lui présente la partie magazine, partie baptisée Le Trésor à la Maison.
Oui, c'était baptisé Le Trésor à la Maison. Évidemment, à partir de lundi, on ne pourra plus l'appeler Le Trésor à la Maison. Donc ce sera Le Trésor avec vous. On cherche un nom, ouais. Je pense que celui-là tient la corde.
Mmh.
Et puis, on fonctionnera comme on a fonctionné jusque-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du journal, on retrouvera Jean-Pierre avec la spécificité qui est la sienne, que, des sujets qu'il affectionne particulièrement et qui sont sa signature. Et on va lui réserver ces sujets-là. Et puis moi, je prendrai le reste de l'actualité.
Et l'actu pure et dure, comme on dit. Je précise qu'il a un studio automatique chez lui, il n'a même pas besoin de technicien. Comment vont les audiences? Vous n'avez pas vidé la salle?
Pas mal, elles vont bien. Je crois qu'on ne les a pas publiées pendant cette période par souci d'élégance bien compréhensible quand on vit des événements qui sont des événements tragiques. On ne va pas commencer à se glorifier de faire beaucoup de téléspectateurs. Hein. Bon,
je veux dire à quoi je pense, Jacques Legros. Vous avez fait une confidence il y a 2 ans, vous avez dit Jean-Pierre, ce que vous le remplaciez l'été. Jean-Pierre m'a simplement demandé de ne pas dépasser les 46% de parts de marché.
Bon, on ne les a pas dépassés.
Bon, alors.
c'est bon. Mais vous mettez la barre très haut, la fille.
Bah, c'est vous qui l'avez dit, hein. j'ai repris votre expression. Alors, vous avez dit, et vous aviez expliqué à l'époque votre manière de travailler. Vous aviez dit, entre nous, on ne s'appelle jamais pour se faire des remarques sur le journal. C'est normal. Non. Si on se mêle l'un du travail de l'autre, on n'aurait jamais tenu 20 ans ensemble. Mais là, vous êtes quand même un peu obligé, vu que vous êtes tous les deux dans le même journal.
Non, ça se fait via l'équipe, via la rédaction du Trésor. Vous savez, les journaux en ce moment font quand même 50 minutes avec des équipes réduites, avec des modes de travail qui sont quand même très dégradés par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres circonstances.
Ouais.
Et du coup, c'est déjà un énorme travail de pouvoir sortir un trésor de 50 minutes tous les jours.
Mmh.
Donc, on n'a pas un quart d'heure à discuter avec Jean-Pierre. On sait quelle est sa partie, puis avec l'équipe de rédaction, on lui a fourni un certain nombre de sujets, lui-même à les siens. Bon, ça se passe très bien, je n'ai pas à intervenir dans ces choix-là au quotidien.
Comment se passe le confinement concrètement? Vous êtes au bureau de quelle heure à quelle heure? Vous arrivez tôt le matin, vous repartez tard, comment ça se passe dans les bureaux? Déjà les horaires?
Alors les horaires, c'est 7h20, 7h15, 7h20 le matin jusqu'à 14h, on souffle un peu, mais c'est du non-stop de 7h20 à 14h, hein, fin du journal. Et puis l'après-midi, petit plateau repas, voilà, froid, et puis, mais bon.
Plateau repas? J'allais vous demander si vous... Et après vous rentrez chez vous, ma question c'est là, est-ce que vous ennuyez quand vous êtes chez... Pas tout de suite, ah bon?
Non, pas tout de suite. On parle du lendemain parce que encore une fois, c'est compliqué à faire. Heureusement, l'équipe est géniale, mais puis on se connaît depuis tellement longtemps. Mais non, il y a beaucoup de travail de savoir ce qu'on va faire le lendemain. Et puis, à TF1, c'est strict. Prise de température à l'entrée du parking, distribution de masques, port obligatoire du masque, distanciation sanitaire obligatoire. Enfin. On ne monte pas plusieurs dans l'ascenseur, on prend les marches, les escaliers plutôt que l'ascenseur, et ainsi de suite. Quoi.
Et sinon, Jacques Legros, quand vous êtes chez vous, vous ennuyez pas trop? En fait, je veux dire le sens de ma question. Est-ce que vous ne faites pas trop d'aller-retour avec le frigo?
Vous parlez des 2,5 kg?
Ça va être ça. Attendez, alors, je vais faire entendre aux auditeurs. Voici ce qu'a fait Jacques Legros, ce qu'il a dit hier à la fin d'un reportage. On vous a entendu dire ceci.
Alors, si plus d'un Français sur deux se sent à l'étroit dans ses vêtements, une solution: refaire dès aujourd'hui un peu d'exercice.
On va essayer, puis qu'importe les kilos, si de toute façon on ne peut pas se montrer en maillot cet été.
Surtout que vous bossez. Alors donc, vous faites référence à ce sondage qu'on a tous vu. 57% des Français ont pris du poids pendant le confinement. En moyenne, 2,5 kg. Pardon de la question, mais c'est le sujet. Et vous?
Moi, probablement aussi. Alors, je n'ai pas mesuré. Je ne suis pas monté sur la balance. Mais forcément, parce que moi, en plus, je suis plutôt quelqu'un qui bouge beaucoup. Et ne plus pouvoir bouger, pour moi, c'est dramatique. Et puis, c'est week-end interminable. Moi, j'ai cette chance, finalement, d'aller au travail.
Ouais.
Donc, je sors depuis le 17, je sors de chez moi tous les jours.
C'est vrai.
Sauf le week-end, qui sont... Alors là, c'est mortel, le week-end. Mais j'ai cette chance quand même d'aller travailler. Donc je sors, je prends ma voiture, je viens à TF1, je vois du monde. Ça, c'est une vraie chance. Je ne sais pas comment j'aurais tenu chez moi, seulement chez moi.
Ça vous plaît, la vie à Paris ?
Non.
Parce qu'habituellement, vous n'habitez pas à Paris, c'est ça, hein ?
Ben, j'essaye de ne jamais habiter à Paris, mais on est là, effectivement, j'ai forcément un pied à terre et j'y suis contraint. Ouais. Mais je n'aime pas les villes en général.
Ça m'a fait marrer. J'ai trouvé une interview ancienne de vous dans laquelle vous dites « Je déteste la vie parisienne. Paris est devenue une ville difficilement vivable. » Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Le monde, la foule, l'excitation, l'individualisme, le mépris de l'autre, cette espèce de population qui grouille et qui...
Bah ça, c'est toutes les villes, Jacques Legros. C'est toutes les villes ou est-ce que c'est toutes les villes ou est-ce que c'est spécifiquement Paris ? Si vous allez à Londres ou à New York, il y a du monde.
Ah oui, non, mais vous parlez des capitales. Ouais. Il se trouve que New York, moi, j'aime bien. Mais bon, mais vous parlez des capitales. Ouais. Mais des villes comme Bordeaux ou Toulouse sont des villes super agréables.
J'ai compris. C'est pas Paris en tant que tel que vous n'aimez pas. C'est le fait qu'il soit
une taille... Pour moi, il y a une taille critique au-delà de laquelle je me sens mal parce que je trouve que les gens ne voient plus qu'eux-mêmes et ce n'est pas ma façon de concevoir la vie. Je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Et donc, je suis bien dans une petite... J'ai vécu dans la région de Bordeaux pendant 10 ans. J'étais très heureux. Le retour à Paris, c'est le retour dans une sorte d'enfer de population, là, juste du mal. Oui,
je pense aux millions de gens qui ont quitté la région parisienne pour être en confinement et qui vous écoutent et qui disent mince, à partir du 11, on va retrouver l'enfer.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Jacques Legros, habituellement il est le joker de Jean-Pierre Pernaut aux 13h de TF1 et là il en est l'actuel présentateur puisque Jean-Pierre Pernaut a décidé de rester chez lui en cette période de confinement. Jacques Legros, c'est assez rare pour être signalé, vous avez poussé un petit coup de gueule à l'antenne, c'était le 17 avril, la semaine dernière, non il y a 10 jours, il était question de La Poste.
Venons-en au scandale de La Poste. Bureau fermé, ouvert quelques heures par jour au mieux, absence de personnel et mépris des clients qui font des queues interminables sur les trottoirs. En termes de service public, on a connu mieux, n'en déplaise aux responsables qui affirment faire un effort.
Bim. Comment ça s'est passé après cette prise de position ? Est-ce que vous êtes fait taper sur les doigts ou au contraire, vous avez été félicité pour votre franc-parler ?
Alors, il y a un avant et un après. J'ai reçu beaucoup de plaintes, évidemment, de postiers. Et je les comprends parce que l'immense majorité d'entre eux faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Mais j'ai assisté à une... D'abord, je ne me suis pas fait taper sur les doigts par personne. J'ai même parlé pendant une demi-heure avec Philippe Val, le PDG de La Poste, au téléphone pour expliquer ce que j'avais vu. J'attendais un paquet dans une grande poste à Paris. J'étais sur le trottoir, dans la file bien compréhensible, puisqu'il fallait filtrer les gens. Ça, j'avais autour de moi des personnes âgées, des cannes, etc. Et puis à 16h-2, les gens avaient attendu pendant une heure et demie, sans voir jamais personne dans la file dire « c'est urgent pour vous, madame, c'est urgent ». Non, non, personne. On a fermé la grille sur les mains des gens. Les gens pleuraient, une dame âgée qui attendait des médicaments. À l'intérieur, personne ne jetait un coup d'œil au dehors. On ne vous connaît plus, etc. Là, j'ai été très, très en colère. Et je me suis dit, bon, bah, tant pis pour les postiers, mais moi, je dois défendre ces gens qui n'ont pas la capacité de se défendre, et, de le faire pour eux.
Et que vous a répondu le patron de La Poste, alors à qui vous avez expliqué ça ?
Bah, très sincèrement, bon, il m'a un peu reproché les termes employés, et je l'admets, je reconnais que j'étais un peu sévère. Le scandale de La Poste, il ne fallait pas le dire, ça c'est évident. D'ailleurs, après, on a fait des reportages tout à fait à la gloire de La Poste, avec des drives du côté de Rhin, etc. Mais il m'a dit, écoutez, très sincèrement, quand vous me décrivez, là je fais sommairement, mais quand vous me décrivez ce que vous avez vécu, j'aurais été comme vous. J'aurais été scandalisé. Mais maintenant, moi, je défends mon entreprise et mon personnel, évidemment. Évidemment.
Je reviens à la crise du coronavirus. Remarquez, non, on y est. Jean-Pierre Pernaut estime que la France a perdu trop de temps dans cette épidémie, et vous-même ?
J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a encore appris hier que des athlètes avaient peut-être été contaminés, je ne sais plus, lors de jeux militaires à Wuhan. il y a très très longtemps. Ouais. Peut-être que l'épidémie est apparue en Chine il y a plus d'un an.
Exactement, et je précise qu'il faut vraiment se méfier de ça parce que les Américains disent que c'est une fake news balancée par la Chine en contrepartie. Je reviens à votre poste de joker, vous êtes là.
Il faudrait déjà que les Américains arrêtent les fake news aussi.
On est tous d'accord, et que tout le monde les arrête partout. Le poste de joker, vous êtes recordman de longévité, 21-22 ans.
22 ans cet été.
C'est bien payé ?
Oh bah, vous allez pas revenir là-dessus quand même.
Bah si, mais...
C'est joker. Bah, c'est joker.
Je vais dire, ce qui m'a vraiment frappé, donc je vais raconter, comme vous n'avez pas envie de le dire, dans une chaîne de télé, pour ne pas la nommer Non-Stop People, vous avez dit que c'était payé en gros 2000 euros par journal, ce qui nous met la semaine à 10 000. Mais si vous n'êtes pas de journal, c'est ça qui m'a vraiment étonné, c'est ça dont je veux parler, vous n'êtes pas payé. C'est vrai que vous êtes pigiste et que vous n'avez pas de contrat avec TF1 ?
Non, je n'ai pas de contrat depuis plus de 10 ans, je crois. Je n'ai pas de contrat avec TF1.
Pour quelle raison ?
Parce qu'on l'a dénoncé, à cause de circonstances imprévues qui ont fait que je ne pouvais pas rester salarié ici. C'est tout. Je ne ressasse pas les histoires. C'est comme ça. J'ai fait ce choix. J'ai été licencié et je suis resté avec un autre statut. Et ça peut paraître, ce que vous citez peut paraître énorme, mais quand pendant 2 mois, vous ne faites aucun journal...
Alors, il faut que je précise, Jacques Legros, c'est que vous avez une double vie professionnelle. Vous êtes également patron de la première radio privée de Suisse.
Radio Lac, ensemble.
S'informer. Radio Lac. Se divertir.
Vous attendiez pas à celle-là,
Non, aussi, pourquoi pas.
Alors,
parce que...
C'est une radio généraliste, c'est ça ? Il y a des jeux, des infos ?
Alors, c'est une histoire, d'abord. C'est-à-dire que...
Ah non, on n'a pas le temps de raconter l'histoire, j'ai encore plein de questions. Ce que je voulais savoir, si je suis bien informé, c'est vous qui animez la conférence de rédac ? Comment ça se passe ? C'est plus vous.
Non, voilà. J'ai quitté cette radio, et j'ai quitté la Suisse il y a presque un an maintenant. C'était au mois de juillet dernier.
Ouais.
Et voilà, donc... La radio était sur les rails et moi, je suis rentré à Paris.
Vous présentez le JT de 13h, je l'ai dit, vous avez été le patron de la rédac de LCI, mais vous refusez de vous définir en tant que journaliste. Pour quelle raison ?
Parce que j'ai peur des boîtes, parce que j'ai peur des étiquettes et parce que je veux préserver ma liberté avant toute chose. Sinon, d'ailleurs, je ne serais pas pigiste. Et voilà, ça passe avant tout, et je pense que j'ai besoin de beaucoup d'air, beaucoup d'air. J'ai besoin d'être curieux de tout, et je veux pas être resté enfermé dans une rédaction. Je manquerai d'air.
Et vous avez même rendu la carte de presse.
Oui, à une époque. D'ailleurs,
vous l'avez là maintenant ou pas ? Vous l'avez plus ?
Je l'ai demandé, mais je ne l'ai pas encore. Je crois qu'elle est perdue.
Alors, est-ce que ça marche toujours, Avenue des Vins ? Parce que vous êtes aussi chef d'entreprise.
Oui, c'est vrai. Ça marche toujours.
Société de livraison directe, combien de salariés ? Comment ça se passe avec le confinement ?
Avec le confinement, on a dû malheureusement se séparer de quelques salariés. Mais du coup, on tourne à minima aujourd'hui. Mais comme c'est de la vente à distance, ça fonctionne pas mal. Oui, ça fonctionne même plutôt bien.
D'accord, la vente à distance, mais avec modération. Dernière question, votre fils est musicien.
Mais
il a quel âge ?
J'ai fouillé partout.
Mais j'ai fouillé partout, c'est le principe de l'interview. Non, je veux dire, ce qui m'a amusé, c'est est-ce qu'il est vrai que vous lui avez interdit de participer à l'émission The Voice ?
Je lui ai pas interdit. Ça, c'est des mots, c'est des titres dans les journaux. Voilà. Je lui ai pas interdit.
Mais vous lui avez dit, tu quittes la maison.
Sûrement pas. Non, mais je pense que c'est pas forcément indispensable. Et puis, je sais, pour avoir produit des émissions chez Endemol, avec Arthur et Stéphane Courby, je sais par expérience qu'une émission de télévision répond à des règles et qui sont un petit peu différentes d'un concours de chant. Je suis pas en train de vous dire que c'est pipoté, pas du tout. Mais il faut, c'est une émission de télévision, je sais en faire. Et un concours de chant, c'est autre chose. Voilà, c'est tout. Et donc, et puis, j'ai pas envie des expositions trop tôt, moi. Ça me fait toujours peur.
Voilà.
Quand on commence trop tôt, souvent, on finit mal. Et donc, il a 15 ans, là. Quand j'ai dit ça, il devait en avoir 13 ou 14. Et c'est vrai que j'en parle avec mon copain Patrick Fiori. Et pourtant, Dieu sait s'il connaît, mais il comprend très bien mon point de vue. Je laisse faire son travail, travailler avec ses professeurs, travailler le piano, travailler le chant. On verra plus tard.
Il faut bien travailler. Merci beaucoup Jacques Legros, je le rappelle. Merci, vous êtes le joker de Jean-Pierre Pernaut, présentateur actuel du 13h de TF1. On pourra vous voir tout à l'heure à 13h sur TF1. Merci d'avoir été avant en direct avec nous.